Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Allez, il est 9h40, passé de 30 secondes sur France Inter. Soyez les bienvenus dans un nouvel Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est un papier du Monde Afrique qui nous a alerté. Le Sénégal divisé sans dessus dessous à cause d'une série télé, ça méritait d'être regardé. On s'est précipité pour découvrir quoi ? Un soap opéra au caractère féminin ultra trempé. Une sorte de Desperate Housewife assez crue et intitulée Maîtresse d'un homme marié. Ta-ta-ta. Et voici que la télévision aborde frontalement ces questions de sexualité hors mariage et de polygamie. D'un côté, les gardiens des bonnes mœurs exigent l'interdiction de la saga. De l'autre, le Sénégal est secoué en ce moment, figurez-vous, par des manifs dénonçant les violences faites aux femmes et l'indifférence des autorités. Bref, que nous raconte Maîtresse d'un homme marié de cette société, mais aussi de son marché audiovisuel en plein essor.
L'Instant M. Sonia De Villers. Sur France Inter.
Voilà un sujet qui nous ravit et qui nous amuse beaucoup et nous sommes ravis de recevoir Hortense Assaga. Bonjour Hortense.
Bonjour Sonia.
Voilà, consoeur, critique de cinéma, spécialiste du cinéma africain qui collabore avec Canal+ et Africa 24. Regardez-nous en vidéo parce que la coiffure d'Hortense est extraordinaire. Et à mes côtés, comme chaque mardi matin, Xavier Delaporte. Bonjour,
bonjour
Xavier.
Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous.
Alors, bonjour. La fenêtre numérique, on l'ouvre et ensuite on en vient aux séries africaines.
Alors, le fait que nous passions beaucoup de temps sur nos téléphones ne pose pas seulement problème à la sécurité routière ou à l'éducation nationale, figurez-vous que le cinéma aussi est très embarrassé.
Ouais.
Comment représenter cette partie de nos vies toujours croissante qui se déroule dans nos téléphones ? Alors, une solution a été plus ou moins trouvée avec les textos. Les afficher en surimpression sur l'écran, on a vu ça dès le début des années 2010 dans l'exercice de l'État, de Pierre Scholler notamment. Et en 2016, dans Personal Shopper, Olivier Assayas trouvait une variante en filmant directement l'écran du téléphone. Mais voilà, aujourd'hui, on fait autre chose que s'envoyer des textos, on s'envoie des photos, on scrolle super vite Instagram, on lit des journaux, on regarde des vidéos sur Snapchat, etc. Et ça, c'est compliqué à représenter. Écran sur écran, d'abord, c'est laid. Et puis, les technologies et leurs usages évoluant tout le temps, on risque de dater le film, de le périmer trop vite.
Terriblement. Terriblement.
Un très bon article du magazine américain Real Life fait état des moyens déployés par les réalisateurs américains pour contourner le problème. Le moyen le plus commun, c'est de déplacer l'intrigue dans le temps. Greta Gerwig, qui est la réalisatrice de Lady Bird, un film qui est sorti en février dernier et qui raconte l'entrée dans l'âge adulte d'une lycéenne de Sacramento, a expliqué qu'elle avait choisi de placer son histoire en 2002 parce que, dit-elle, faire un film sur les ados d'aujourd'hui, c'est filmer leur téléphone, leur vie ont lieu en ligne et ça n'est pas très cinégénique. Et au dire du magazine, cette tendance forte du cinéma contemporain à se décaler dans le temps expliquerait la vague actuelle d'un cinéma qui préfère le passé au présent. Figurez-vous qu'aux derniers Oscars, 6 des 8 films nominés pour le meilleur film étaient des films d'époque. Autre moyen de contournement, on se contente d'utiliser le téléphone pour faire avancer l'intrigue. C'est hyper pratique. Un message arrive et pouf, l'histoire fait un bond. Le téléphone comme outil magique du scénariste. Ou alors, à l'inverse, dans les films d'horreur où le téléphone représente le moyen de survie, c'est typiquement la batterie déchargée, hein, ou alors le fait de pas avoir de réseau qui va jouer. Mais il faut l'avouer, ces représentations sont au final assez pauvres. En n'affrontant pas le problème, un pan entier de la vie contemporaine échappe donc au cinéma. Mais surtout, le cinéma nous laisse tout seul pour penser ce que les téléphones font vraiment à la manière dont on vit, dont on se lie les uns aux autres, dont on constitue notre mémoire, etc. Néanmoins, heureusement, des gens tentent des trucs. Ainsi, les deux réalisateurs d'un court-métrage étonnant qui s'appelle Pocket.
Mom, please don't tag me in anything.
On y suit un an de la vie d'un ado, mais du point de vue de son téléphone, comme si on était à l'intérieur du téléphone, comme si on était le téléphone. Et ça marche très bien. On y parcourt les réseaux sociaux avec lui, on y voit ce qui l'angoisse à travers ses recherches, par exemple avoir un testicule plus petit que l'autre. On voit ce qui l'excite, on voit avec qui il parle, comment il parle, on voit les hésitations dans l'écriture. On y voit se développer une vie amoureuse qui commence par liker le compte Instagram d'une jeune fille, se poursuit par des messages, des échanges de photos osées sur Snapchat, etc. Au visionnage de Pocket, on se dit que le film offre la représentation filmique sans doute la plus juste de la vie d'un ado aujourd'hui. On se dit aussi que c'est assez génial du point de vue cinématographique, même du suspense, mais épuisant à regarder. On se dit que c'est le risque d'une représentation trop littérale, trop proche de l'expérience. On ne tient pas plus d'un quart d'heure. On se dit que le cinéma doit sans doute sublimer l'objet et ses usages, comme le cinéma des années 50 a réussi à sublimer le vieux téléphone filaire et ses conversations, oui, dans Hitchcock, par exemple. Simplement, le smartphone, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas encore trouvé, mais le défi est passionnant. Ce qui est dommage, c'est de ne pas le relever.
Merci Xavier. Et sinon, si vous voulez savoir comment c'était de fumer dans les années 70 au restaurant ou dans la voiture, bah vous revoyez Claude Sautet. En attendant, la fenêtre de Xavier Delaporte, son téléphone et son cinéma, c'est à réécouter sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
La série qui divise le Sénégal, on a été regarder Maîtresse d'un homme marié, épisode 35.
Marem la beug moussa ici.
Cheikh degouma de.
Marem la beug moussa ici.
Mais cheikh, pourquoi? C'est quoi ton problème? Yo amon fenen fuk yo fudul fi.
Lala. Marem ci keur gi lay dugg. La maison est trop grande pour nous et il y a des chambres inoccupées. Et en plus, je veux que ma famille soit près de moi.
Voilà, on vous parle ce matin d'un phénomène que vous n'imaginez pas et on vous en parle avec Hortense Assaga, notre consoeur d'Africa 24 et de Canal+, critique et spécialiste de cinéma africain. Est-ce qu'on peut raconter d'abord assez simplement, on va dire, l'intrigue de Maîtresse d'un homme marié, Hortense?
Alors, si intrigue il y a, Sonia, en oui. fait, maîtresse...
un peu quand même.
Maîtresse d'un homme marié est un, alors on va dire ça comme ça, un soap.
Un soap.
Une série qui compte les aventures de cinq femmes, parce que ça, c'est le point de départ. C'est une série créée par une femme pour des femmes.
Oui. Oui. Donc, qui s'appelle
Khadija Sy. Khadija Sy, la scénariste. Hein. Ouais. Lala, donc je vous donne les prénoms des cinq.
Allez-y.
Des cinq. Hein. Lala, Marem, Djalika, Dior et Raki.
Ouais.
Ce sont donc cinq femmes, cinq dakaroises, parce que donc le contexte c'est évidemment Dakar, hein, capitale du Sénégal, où vivent ces femmes avec des qui ont des professions diverses, hein, qui sont actives et qui sont en fait en quête d'amour.
Et alors c'est voilà. extrêmement intéressant parce que elles sont toutes belles, elles sont tous super bien fringuées, toujours par des créateurs locaux,
absolument.
Avec des coiffures typiques de leur classe sociale dakaroise, etc. Donc ça met vraiment en valeur ces milieux dakarois que ça filme. Et alors, on voit évidemment la photo promotionnelle, on se dit que c'est une sorte de nouveau dynastie, c'est clinquant, c'est plein de paillettes. Pas du tout, en réalité tout ça est assez féministe. On va parler des deux premières protagonistes, Lala, qui est donc cette espèce de, on va dire, de ménagère exemplaire.
Voilà, Lala est l'épouse traditionnelle. Tout à l'heure, Sonia, vous parliez de Desperate Housewoman, mais elles sont pas si désespérées que ça. Hein, mais Lala, c'est l'épouse traditionnelle, elle s'est mariée, un foyer, des enfants, un foyer très bien tenu. Elle est mariée avec Cheikh, donc, elle est vraiment dans l'image. Dans le stéréotype de la femme sénégalaise, l'épouse telle qu'on l'a éduquée.
Et elle voit arriver Marem.
Elle voit arriver Marem, qui est une espèce de badass. très belle, très libre, belle. Très jeune. Elle est tout trait.
Oui.
Et elle vient. Donc, elle c'est typiquement aussi la jeune femme sénégalaise pour qui le diplôme est le mariage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, dans cette société sénégalaise, quand on éduque une fille, on lui dit ton diplôme, ton meilleur diplôme, ce sera ton mari. Donc voilà, elle c'est ça. Pourtant, elle n'est pas à plaindre. Elle a un travail, hein, elle gagne sa vie, mais il lui manque.
Donc elle devient la maîtresse de l'homme marié, c'est-à-dire la maîtresse de Cheikh. Elle
Absolument.
Va devenir la co-épouse.
Absolument.
Donc voilà, une série qui aborde frontalement
la
question de la polygamie. On va en reparler. Il y a aussi une working girl qui subit les violences de son mari alcoolique. Il y a aussi une femme traumatisée par un mariage forcé. Il y a aussi Raki qui a subi un viol. Alors là où moi j'en suis dans la série, on ne sait pas exactement encore qui l'a violée, mais à mon avis, on va savoir. Et on s'aperçoit qu'en face de ça, il y a des personnages d'hommes qui sont très phallos, très stéréotypés, alors qu'on a des personnages de femmes puissants. En réalité.
Oui, c'est-à-dire
complexe.
Si vous interrogez Sonia, les spectatrices hein, de cette série au Sénégal notamment ou dans la diaspora, beaucoup vont vous dire que ça dépeint la réalité, le vécu de la femme sénégalaise. Mm-hmm. Donc dans ce rapport notamment avec son homme, où il faut être dans l'ultra séduction à chaque fois pour le garder, et c'est vraiment très très marqué.
C'est ça parce qu'on va avoir
Sénégal,
une rivalité féroce.
Féroce
entre Lala et Meriem, avec des adjuvants ou au contraire des adversaires qui sont là pour conseiller des stratégies, comment garder son mari, comment faire barrage à l'autre, est-ce qu'on fait alliance contre l'homme ou est-ce qu'au contraire on s'entre-déchire entre femmes. Tous les épisodes sont, vous pouvez les voir, disponibles sur YouTube, 1,5 million de vues au minimum par épisode, et puis c'est ultra suivi sur place, c'est diffusé par 2STZ TV à 21h tous les lundis et tous les vendredis. Et voilà qui attire les foudres des ligues de vertu. Parce que justement, 21h, c'est une heure de grande écoute. Écoutez la réaction, par exemple, d'un youtubeur. Lui, il s'offusque qu'on cherche à faire censurer ce feuilleton.
Assalamu alaikum beaucoup Sénégal, assalamu alaikum beaucoup internet. Maay nuyu kus nek sa tour ak sa sante. Di len ngeen dal jam sur ma chaîne YouTube. Wesh yow, comme ni ma koy faral di waxe chaque fois.
Alors voilà, lui il dit qui sont, ces gens-là pour faire interdire la série. Alors il sait qui, c'est une ONG qui s'appelle Jamra. Voilà, représentée par Mam Maktar Gueye. Je couche avec qui je veux, aurait dit dans la série en Wolof le personnage de Marem. Vous, vous me dites, elle n'a pas exactement
dit
ça.
Elle a dit autrement, hein, un peu moins fleurie. Elle a dit ce que j'ai entre mes jambes, je l'offre à qui je veux.
Voilà, réaction de Jamra. Ceci est le summum de la vulgarité du langage horturier. On ne peut pas laisser passer de tels messages qui agressent la population sénégalaise et surtout les enfants. Lui, il parle de dérive audiovisuelle et il parle, c'est intéressant, je voulais vous poser la question, d'un mimétisme déplorable des cultures occidentales.
Alors, c'est vrai que là, ça touche à quelque chose de très culturel. Ce qui se passe dans les maisons, dans les foyers, dans les cours, doit rester dans les cours. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face.
D'ailleurs, Maîtresse d'un homme marié s'est tournée en intérieur.
C'est tourné en intérieur, voilà, toujours. C'est un huis clos comme ça, tout le temps, où la maîtresse rencontre
Il y a un resto de temps en temps, mais enfin...
Mais ça reste très, très, très clos. Effectivement, là, ça touche quelque chose, je disais, de culturel, parce que faut pas dire dehors ce qui se passe dedans, si on est violenté dans son foyer, faut pas que ça se sache. Si son mari a une maîtresse, faut pas que ça se sache. Alors, dans certaines parties de l'Afrique, c'est usuel, vécu, accepté. On parle de premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau.
Ouais.
Et puis, dans d'autres parties, ça l'est un peu moins. Et donc là, il se trouve que ça existe. Mais il ne faut pas en parler. C'est pour ça que c'est...
Alors, j'ai lu des papiers dans la presse africaine aussi qui rappellent ce qu'est la soutoura. Vous pouvez peut-être nous expliquer cette espèce de pudeur de la femme africaine. On ne raconte pas ce qui se passe à l'intérieur, mais en réalité, on ne raconte pas tout court. On endure.
Il faut souffrir pour être mariée.
Voilà. Et par ailleurs, les féministes des années 70 se disent aujourd'hui en extrême minorité, soulignent combien au Sénégal la religion pèse un poids absolument écrasant et a entraîné un recul, elles pensent, de la condition des femmes au Sénégal. Et aujourd'hui, elles disent, sur le cas de la polygamie, puisque c'est le principal sujet de cette série, c'est devenu quelque chose de banal, c'est devenu quelque chose de normal. Les élites s'affichent polygames. On n'aurait jamais imaginé ça à notre époque, disent-elles.
Mais oui, parce que aujourd'hui, alors certains chiffres vous disent que, notamment au Sénégal, il y a plus de femmes que d'hommes.
Mmh.
Et je vous ai dit tout à l'heure que la finalité, quand on est éduqué de cette manière-là, c'est d'être marié, d'être épouse, d'être madame, d'avoir un foyer.
Mmh.
Donc. Du coup, ça donne effectivement ces conflits-là. C'est vraiment une question de société. La polygamie est présente aujourd'hui. Alors, je me mets du côté africain. On dit, à la limite, chez nous, en Afrique, on préfère dire que nous sommes polygames. Contrairement à d'autres parties du monde où on a des maîtresses cachées, etc. Et qu'on découvre plus tard. Donc là, c'est vrai que c'est très, très, très frontal. Culturellement, ça n'est pas simple.
Est-ce que l'utilisation du Wolof, Hortense Assaga, a justement renforcé la pénétration et le succès de cette série qui déchaîne les conversations au Sénégal et au sein de la diaspora sur les réseaux
sociaux? Absolument, il faut savoir qu'au Sénégal, évidemment, la langue française est la langue, on va dire, usuelle, mais c'est surtout le Wolof qu'on parle, quelle que soit la tranche d'âge, la catégorie socio-professionnelle ou l'origine, on parle Wolof.
Alors que le cinéma sénégalais
le cinéma
est en français.
Est en français, donc quelque part c'est un peu excluant, il y a une distance. Et alors que là c'est populaire parce que on parle la même langue, on se comprend, du salon de coiffure en passant par le marché ou dans les ministères, on comprend cette série parce que ça nous parle.
Alors, je vous fais écouter un extrait de C'est la vie. C'est une série un petit peu plus ancienne qui était tournée à Dakar, une sorte de soap hospitalier qui se déroulait dans un centre de soins ou une maternité et qui a abordé elle aussi hein, tout un tas de tabous.
Docteur, j'ai mal.
J'ai mal. Comme si c'est nous qui leur disions d'aller tomber enceinte.
Non, mais j'ai des contractions.
Et c'est Lala. Tu crois quoi? Qu'elles sont là pour un casting? Hé, tu attends ton tour comme tout le monde, ok?
J'ai plus envie de prendre ce café. Oh.
Bonjour. L'accueil de la maternité, c'est bon. Merci.
C'est la vie 2015, alors c'était très bien produit, c'était très bien financé, c'est la vie parce qu'il y avait le concours de Canal+, il y avait TV5, il y avait les programmes de coopération médias du CFI. Donc justement, on a rompu avec des productions locales à la limite de l'amateuriste, on va dire. Et on sait depuis 2015 qu'il y a une vraie montée en puissance des productions locales et une vraie appétence et du public et des diffuseurs qui ont complètement modifié leur stratégie aujourd'hui.
Parce qu'il y a un public, tout simplement, ouais. Hein, Sonia. C'est que aujourd'hui, on s'est rendu compte que le cinéma repart. Mais vous savez quand même qu'il y a très peu de salles de cinéma dans la plupart des pays hein, sur le continent. Donc aujourd'hui, le téléphone, vous en parliez il y a quelques instants, devient un médium très important.
Très important.
Il faut vraiment.
La moitié de l'Afrique subsaharienne est équipée d'un téléphone et d'une connexion au minimum 3G. Donc voilà. C'est vraiment un vecteur absolument incontournable.
Voilà, plus petit village, on est déjà en 3G. Donc on est passé vraiment, comme on dit, souvent on est passé du tam-tam à la 3-4G. Donc il faut des programmes pour ces médias-là. Donc les productions se sont dit aujourd'hui, on va parler de l'Afrique telle qu'elle est. Et ça correspond aussi aux vœux du public. Mmh. Le public a besoin de se voir, de se reconnaître, de s'entendre. Et ça dit quelque chose de l'Afrique d'aujourd'hui qui est décomplexée, qui parle d'elle telle qu'elle est, positive,
négative. C'est extrêmement intéressant
puisque
la télévision sénégalaise est un média essentiellement féminin, en tout cas écrasante majorité féminine dans son audience et a été longtemps nourri par exemple de telenovelas sud-américaines.
Bien sûr. Et puis c'est les fameuses ménagères. Hein, là. Encore une fois, l'Afrique est à l'aune du monde, hein, même si de ce côté-ci des rives de la Seine, on le voit pas toujours, mais on a exactement les mêmes problématiques. Les ménagères de moins de 50 ans, faut les alimenter en publicité. Ce que fait d'ailleurs très bien la série Maîtresse d'un homme marié. Il y a vraiment les coupures pub qui sont insérées.
Est-ce qu'on a le temps de les écouter, les coupures pub
qui sont
allez, insérées. Je vous en fais écouter une parce qu'elles sont incroyables.
Oui.
Je vous en fais écouter
promo
une.
Spécial Ramadan avec Bob. Bob Hightech, congélateur vertical de marque Whirlpool. 6 tiroirs au prix exceptionnel de 169 000 francs CFA. Pour tout achat d'un congélateur, un panier Ramadan offert.
Dentifrice. Et hop, le panier Ramadan.
Panier Ramadan, voilà. Congélateur.
Et dans le monde entier, c'est diffusé sur YouTube avec ses campagnes intégrées.
Mais oui. Congélateur, mayonnaise,
exactement.
Panier Ramadan.
Dentifrice, c'est du soap.
Assurance. Enfin, vous avez salon. On peut même acheter un lit, dernier cri. Enfin, ça vise le public.
C'est toute l'économie de la ménagère africaine. Merci beaucoup Hortense Assaga, merci d'être venu nous rejoindre. Et si ça vous amuse d'aller regarder Maîtresse d'un homme marié, sincèrement c'est pas très bon, hein. C'est pas très bon comme série. C'est pas très bon, c'est un phénomène de société passionnant, c'est pas génial à regarder. Vous êtes d'accord?
Oh, voilà, il faut...
Allez, c'est sur YouTube, allez. Bonjour Julia Poyce.
Bonjour Sonia, bonjour tout le monde.
Alors, de quoi on va parler aujourd'hui dans Grand Bien Vous Fasse?
Eh bien aujourd'hui on va parler des violences sexuelles avec ce chiffre qui ne baisse pas, Sonia.
Ouais.
8 victimes sur 10 ne portent toujours pas plainte et on va se demander pourquoi.
Et ben voilà, et ça se passe chez nous, on vient de raconter ça en Afrique. À tout à l'heure, Julia.